Bon, OK, tu as tout mis en sourdine, ça fait qu'on recommence notre étude. On est dans l'Épître aux Éphésiens, on est dans le deuxième chapitre, on avait fait le début, on avait fait les versets 1 à 9 du chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. Donc, c'est ça, on commence, on avait, comme j'ai dit, on avait commencé le chapitre 2, les versets 1 à 9, puis on avait dit que c'était la différence entre les deux groupes qui nous parlaient au début, et ceux qui étaient morts, on était morts dans nos péchés, puis à un moment donné, on est ressuscité, on est revenu à la vie avec Christ. Puis la différence entre les deux groupes, on avait dit, c'est le salut de Dieu. Mais on avait parlé que les versets 4 à 10, c'est son œuvre en nous, c'est ce qu'il a fait en nous. Puis les versets 11 à 13, c'est la condition des païens, parce qu'il parle de nous. Et il parle de vous et nous, ben Paul étant un juif, quand il parle de nous, c'est les de vous, c'est les païens, quand il parle de nous, c'est les juifs. Puis on va voir que dans le chapitre 2, ben, ils vont être amalgamés, mais les vous et les nous vont venir ensemble. Mais c'était dans le verset 11 à 13, c'est la condition qu'on va voir ce soir, c'est la condition des païens. Qu'est-ce qu'on était sans Christ avant de venir à Christ? Puis dans les versets 14 à 18, bien, ça va être le rapprochement des Juifs et des païens pour former un seul corps. Ça fait que, avant d'aller plus loin, on va lire dans le chapitre 2. On va lire, on n'avait pas fait le verset 10, on va commencer avec le verset 10 jusqu'à la fin du chapitre. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse et sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Il est réconcilié avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès de Dieu. Nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est que le Seigneur va bénir la lecture de sa parole. Je vais vous demander juste une seconde. Je pense qu'il n'y a pas le bon. Non, il n'y a pas le bon lien. C'est que je vais lui envoyer le lien, puis on revient tout de suite. Ce sera pas long. Un petit peu, ce sera pas long. J'essaie de le. Je vais lui donner le lien, là, c'est pas long. J'essaie de le prendre. Que je lui donne aussi là. Le mot de passe. Attendez un petit peu. OK, excusez-moi un peu. C'est à cause du délai. C'est bon. Fait qu'on commence. OK, il vient de se joindre. C'est bon. Fait que, comme on avait dit au début, qu'est-ce qu'il a fait en nous? Il nous a proposé le salut, mais le moyen de le prendre, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par nos œuvres, fait que personne ne se glorifie. Mais le moyen de recevoir ce don-là, c'était par la foi, par le moyen de la foi. Mais maintenant, si le salut n'est point par les œuvres, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé pour des œuvres. Quand on parle d'être sauvé, on parle de rédemption. C'est que le Seigneur nous a rachetés. On était esclaves du péché. Il nous a rachetés, il nous a rendus libres, mais pour qu'on devienne ses serviteurs. Vous savez, quand on achète quelque chose, on a un but en l'achetant. Si on achète un auto, c'est parce qu'on veut s'en servir, soit pour aller au travail. Puis on s'attend que l'auto qu'on a acheté va faire ce la raison pour laquelle on l'a acheté. Mais le Seigneur, il nous a sauvés pour des œuvres. Comme on voit dans le verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Fait que la vie chrétienne, vraiment, c'est de pouvoir discerner les œuvres que le Seigneur, le plan qu'il a pour notre vie, puis de l'accomplir. Puis vous savez, on est vraiment fait exactement pour le plan qu'il a pour notre vie. Les œuvres qu'il a préparées d'avance, il nous a fait pour ça. Puis c'est pas pénible de servir le Seigneur, parce qu'il nous a demandé des choses à accomplir, mais il nous a donné un peu comme Jérémie. Quand il a voulu un prophète de pleurs, mais il a fait Jérémie, puis il a été un prophète de larmes pour annoncer les jugements à Israël. Puis nous, il nous a fait exactement pour les œuvres qu'il veut qu'on accomplisse pour lui. Puis on l'est pour des œuvres. Donc, c'est des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et donc, il y a un plan défini pour notre vie chrétienne. Le salut, ce n'est pas juste un billet pour le ciel, mais c'est maintenant une nouvelle vie qu'on va vivre. C'est sûr qu'on a l'assurance du départ, on a l'assurance d'arriver dans la gloire, parce que c'est lui qui s'est engagé pour nous emmener dans la gloire. Mais en chemin faisant, on va servir le Seigneur pour sa gloire. C'est un peu comme, des fois j'illustre ça d'une façon, c'est que si quelqu'un voulait aller, était sur le quai à New York, puis voulait s'en aller en Europe, il peut plonger dans l'eau, puis c'est comme le salut par les œuvres. Il peut faire un bout, il y en a qui vont peut-être nager un petit peu plus loin que les autres, mais c'est sûr et certain qu'il n'y a personne qui va se rendre en Europe à la nage. C'est impossible. Mais si quelqu'un a un paquebot qui est OK, puis il dit, t'as juste embarqué sur le paquebot, puis je vais t'emmener en Europe. Fait que là, il est assuré de se rendre en Europe avec le paquebot. Puis, même s'il y avait une piscine sur le paquebot, qui sauterait dans la piscine puis qui nagerait, il n'y arrivera pas plus vite en Europe. Mais, par exemple, il peut dire par appréciation, par reconnaissance, il peut dire au propriétaire du paquebot, ben, regarde, je te remercie beaucoup de m'emmener en Europe. Est-ce que je peux faire quelque chose en reconnaissance pour ce que tu fais pour moi? Il va y aller pareil, même s'il ne fait rien, mais sa reconnaissance, il peut dire, ben, je vais laver le pont, je vais faire des choses, je vais te servir pendant le voyage. C'est un peu comme ça, nous autres aussi. Puis si on reconnaît vraiment ce que le Seigneur a fait pour nous sauver, bien, veut, veut pas, ça nous donne un désir par amour pour lui, de le servir. Puis c'est ce que le Seigneur veut. Il veut qu'on le serve. Il a préparé des œuvres. Il est prêt. Il n'est pas pris au dépourvu. Il sait exactement ce qu'il veut faire, lui, de nos vies. Puis il va nous donner aussi la puissance de le faire. Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 9, 16, il dit, si j'annonce l'Évangile, parce que Paul, au moment où il était sauvé, il a commencé à annoncer l'Évangile, puis il dit, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Donc, Paul reconnaissait vraiment que le Seigneur l'avait, puis même quand il l'a sauvé, il avait dit à Ananias qu'il l'avait choisi pour qu'elle allait souffrir pour lui à cause de l'Évangile. Donc, il voulait l'envoyer vers les nations Puis c'était son but, puis Paul, dans ce qu'il a accompli, ça n'a pas été une vie facile, mais c'était une vie qui est devenue possible parce qu'elle était poussée par le Seigneur, puis son esprit le faisait en sorte qu'il faisait son travail. Puis vous savez, il y a une joie, il y a une grande joie à servir le Seigneur après qu'on est sauvé. C'est vraiment merveilleux. Maintenant, on arrive au verset 11 du chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. Puis dans le verset 11 ici, puis le verset 11, 12, 13, il dit, c'est pourquoi vous autrefois, donc on a parlé des vous et des nous, quand il parle de vous, il parle des païens, quand il parle de nous, il parle des juifs, parce que Paul est un juif lui-même. Mais il dit, c'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont à la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous savez qu'il parle de vous ici. Donc le vous se réfère encore une fois aux païens, puis il fait la différence ici très nette entre les circoncis et les incirconcis. Les circoncis, ben on sait que la circoncision, c'était le signe d'alliance que Dieu avait donné à son peuple. Donc, tout mâle devait se faire circoncire pour faire partie du peuple de Dieu. C'était une marque d'appartenance à Dieu que la circoncision. Puis, il y avait ceux qui n'appartenaient pas au peuple de Dieu, qui n'étaient pas circoncis. Puis, Paul, ici, il parle, comme là, il parle de nous et vous. Il parle des circoncis, des incirconcis. Puis, ensuite de ça, mais il va voir comment. Puis, c'est important qu'il en fasse la différence entre les deux pour montrer par la suite comment Dieu les a joints ensemble, sans faire aucune différence entre les deux. Mais là, avant que Dieu les joigne ensemble dans son corps qui est l'Église, son habitation qu'on va voir, eh bien, c'est important de voir qu'il y avait une très grande distinction entre les Juifs et les non-Juifs. Mais ici, la différence était l'homme, la différence était ici dans la chair, il y avait les circoncis et les non-circoncis. La différence était aussi dans la façon que les Juifs regardaient les païens. Les Juifs regardaient les païens comme des chiens, des gens du dehors, des gens qui n'appartenaient pas au peuple de Dieu. Mais dans le verset 12, il dit qu'ils étaient sans Christ, en parlant des païens, sans Christ, il n'y avait pas de part avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, il fallait, pour venir à Dieu, il fallait se convertir au judaïsme. Il fallait se conduire à la religion judaïque pour pouvoir avoir part avec Dieu, parce que Dieu, à ce moment-là, se révélait à travers le peuple juif. Donc, il fallait devenir ce qu'on appelle dans la parole de Dieu un prosélyte. Il fallait qu'un païen se convertisse à la religion juive. Il fallait qu'il accède à Dieu par la religion juive, ce qui va être différent maintenant, là. Donc, c'est ça qu'on voit au verset 13, il dit, mais maintenant, donc il y avait auparavant, qu'est-ce qu'il y avait les juifs et les gentils, les circoncis, les incirconcis, il fallait auparavant aller vers Dieu à travers la nation juive ou à travers la religion juive, mais il dit, mais maintenant, maintenant, donc ça fait toute une différence, là. C'est plus la même chose. Paul, il va démontrer une différence à partir de maintenant. Quand il y a un mais aussi, ça change toute la situation. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc maintenant, ce n'est plus par la conversion au judaïsme qu'on va avoir part à Dieu. C'est changé. Il y a une différence, il y a eu un changement. Auparavant, il fallait judaïser. Maintenant, ce n'est plus comme ça. Ce n'est plus par la conversion au judaïsme, mais c'est par la conversion au Christ. C'est important, c'est toute une distinction, là. Ce n'est plus une religion, c'est une personne. C'est par une conversion à une personne qui va avoir un rapprochement des deux. Puis il va montrer que ce n'est pas juste pour les païens, mais pour les juifs aussi, ça va être à travers le Christ. Donc, c'est comme une mise de côté de la religion juive pour maintenant regarder à une personne. C'est le Christ maintenant qui va remplacer tout ça. Donc, c'est la conversion à Christ. C'est lui maintenant qui est le point de ralliement. C'est par le Christ. Puis c'est toute une différence. Si on se met dans la pensée d'un juif à ce moment-là, qui lui qui était assuré qu'il fallait absolument être dans la religion juive. On pense à toute à la loi, au temple, tout le service qui se faisait dans le temple avec les Lévites, les sacrifices, tout ce qui se passait. Maintenant, tout ça est mis de côté. C'est pas par ça qu'on s'approche de Dieu, mais c'est maintenant par une personne. Puis dans Hébreu, il dit, autrefois, Dieu nous avait parlé par les prophètes, mais maintenant, il nous a parlé en son Fils. Puis on voit l'importance que le Seigneur Jésus-Christ prend maintenant, parce que c'est à travers lui maintenant qu'il va. Puis comme il dit au verset 13, bien, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Donc c'est le sang de Christ ici qui devient important. Mais ça, il nous a montré que les païens étaient loin, étaient éloignés, mais maintenant ils ont été rapprochés, mais pas dans le judaïsme, mais dans la conversion au Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant, il va dire ici, au verset 14, car il est notre paix, lui qui des deux. Donc, il est notre paix, lui qui des deux. Donc, là, maintenant, les Juifs et les païens, il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Donc, il a renversé ce mur-là, puis il a fait la paix. Puis, c'est ça vraiment qui va être le mystère ici, là, que Paul va commencer à parler d'un mystère, puis on va en parler un petit peu. Mais c'est un mystère, c'est que l'Église, maintenant, qui est un nouveau peuple, qui n'existait pas dans l'Ancien Testament, c'est un mystère. Et on va voir ça qu'un mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. On a parlé des mystères ici, sur cette étude-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu connaître s'il ne nous avait été révélé. Puis le Seigneur, il nous révèle, puis c'est comme ça que Paul, maintenant, il va commencer à parler de ce mystère-là pour nous le faire comprendre, pour nous le révéler. Puis il parle beaucoup de ce mystère-là dans l'Épître aux Éphésiens. Donc, c'est un rapprochement des Juifs et des païens. Puis ça, c'est un mystère qui va former l'Église. Les deux sans distinction viennent ensemble sur le même pied d'égalité. Ce n'est pas que les païens se sont tournés vers les Juifs, mais c'est que les païens et les Juifs se sont tournés vers le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas tous les Juifs, comme ce n'est pas tous les païens. C'est seulement ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. Ils ont été rapprochés, ils ont été amenés ensemble pour faire un seul peuple. Par rapport au mystère, on voit dans chapitre 1, verset 9, il dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Ensuite, dans chapitre 3, au verset 3, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Au verset 4, il dit, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Après ça, dans le verset 6, il dit, verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Ensuite de ça, au verset 9, il dit, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Dans le chapitre 5, au verset 32, il dit ici, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Puis dans le chapitre 6, au verset 19, il va dire, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Mais vous, là, tout au long de l'Épître, il parle de ce mystère-là, le mystère qui c'est des Juifs et des païens qui sont rassemblés ensemble. Donc, pour nous autres, c'est un peu plus facile de comprendre après plusieurs, des millénaires, des 2000 ans d'histoire. Mais à ce moment-là, si on se met dans la peau de ces gens-là, ben, c'était vraiment difficile là, de comprendre cela, là, que tout d'un coup, la religion juive n'a plus la priorité, mais c'est maintenant, c'est le Christ qui prend la place. Puis c'est ça qui a causé le problème des Juifs. C'est pour ça qu'ils ont été tellement contre le Seigneur Jésus-Christ, parce que vraiment, il enlevait leur place, c'est lui qui prenait la place. Puis, mais ceux qui le comprenaient, ben, en se convertissant à lui, comme Paul s'était converti à lui, mais auparavant, il était très opposé. Il voulait enlever le nom de Christ sur la terre, mais ben, quand il s'est converti à lui, ben, maintenant, il l'a proclamé. Mais dans le verset 14, il dit que Christ est notre paix. Et vous, il dit, car il est notre paix. Mais il est notre paix sur le trône. Parce que là, le Seigneur Jésus est sur le trône, puis il est notre paix en étant sur le trône. Dans le verset 15, il dit que Christ a établi la paix. Au verset 15, il dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Puis il a établi cette paix-là sur la croix, dans sa chair. Puis dans le verset 17, ben, Christ prêche la paix. Dans le verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Mais il le fait pas seulement par ses serviteurs, mais il le fait à travers ses serviteurs. Donc il annonce la paix entre les deux. Comme Paul a fait la distinction, les circoncis, les incirconcis, et lui, il a annoncé la paix entre les deux. Non seulement aux païens, mais de la même façon. Puis ça, c'est important, de la même façon aux juifs. Fait qu'il n'y a pas de priorité, là. Les juifs étaient sur le même pied d'égalité que les païens. Il y avait aussi besoin de se faire annoncer la paix par le Seigneur Jésus-Christ. Puis il y avait besoin, eux aussi, qui étaient prêts dans la religion juive, mais ils étaient loin de Christ. Ils devaient aussi être rapprochés par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les versets 14 et 16, il nous parle d'un mur de séparation qui avait une inimitié à cause des ordonnances, à cause de la loi. C'était ça qui était le mur de séparation. Eux, il y avait la loi, les païens n'avaient pas la loi. C'est ça qui faisait le mur de séparation et était dans le fait que les juifs se voyaient saints parce qu'il y avait la loi et ils voyaient les païens comme des impurs. Puis c'est pour ça que quand Paul, pas Paul, mais quand Pierre le Seigneur lui a demandé d'aller vers Corneille, ben, il avait dit, quand le Seigneur lui a donné la vision, il a dit, Seigneur, il n'y a jamais rien d'impur qui est entré dans ma bouche. Il parlait des lois ici, là, sur la nourriture, qu'il y avait des choses pures, des choses impures. Mais le Seigneur, il lui montre ici parce qu'il lui avait montré sur la nappe tous les animaux, il y avait des purs et impurs. Puis il avait dit, Pierre, tue puis mange. Puis il dit, non, non. Mais il voulait lui montrer par là que Pierre, dans sa pensée, pour lui, les païens étaient impurs. Mais maintenant, il lui disait, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Parce qu'il voulait que Pierre aille parler à Corneille, qui lui était un impur, selon Pierre. Mais le Seigneur lui montrait que non, il n'était pas impur. Puis Pierre était convaincu en prêchant l'évangile à Corneille, qui s'est converti. Puis quand il s'est converti, comme Pierre dit, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au commencement. Puis il dit, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? C'était vraiment la volonté de Dieu ici, là. C'était la révélation que les Juifs et les païens venaient ensemble ici. Mais la croix qui était nécessaire autant pour les Juifs que pour les païens. Pour ça, comme Pierre, quand le Seigneur avait annoncé qu'il allait aller souffrir et qu'il allait mourir, ben Pierre a dit à Dieu, ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Puis le Seigneur avait dit à Pierre, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais la croix était nécessaire autant pour les Juifs que pour les païens, parce que tous étaient des pécheurs. Les Juifs, même avec la loi, ils ont péché. Puis les païens, sans la loi, ils ont péché aussi. Donc, ils avaient tous besoin d'un sauveur. Mais ça nous met tous sur le même pied d'égalité. Vous savez, ça, le fait que se reconnaître pécheur, là, ça nous amène tous au même niveau. Qu'on soit religieux, qu'on soit des gens pervers, on est tous des pécheurs. Puis ça nous amène tous au même niveau, qu'on a besoin d'un sauveur. Ça, c'est important. C'est tout sur le même pied d'égalité. On est tous des pécheurs, comme la parole de Dieu nous dit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ici, le Seigneur nous amène tous sur ce même pied d'égalité-là. Pourquoi qu'il fait ça? Pas juste pour nous humilier, parce qu'il faut s'humilier, mais c'est pour nous sauver. Parce que tant qu'on ne réalise pas notre besoin d'être sauvé, on ne cherchera pas le salut. Puis c'est pour ça que dans Romains 11, 32, il dit, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, que ce soit juif ou païen, peu importe. Il a, puis ça, c'est hommes et femmes aussi, et enfants. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. Pourquoi? Il dit, pour faire miséricorde à tous. Donc, il nous a tous mis dans le même panier. On est tous des impurs, on est tous des gens du dehors, on est tous des gens qui ont besoin d'un sauveur. Puis, c'est pour ça que là, les Juifs ne peuvent pas s'enorgueillir, ni les païens. On était tous au même niveau. Puis, là, il voulait nous faire miséricorde à tous. Dans le verset 15, qui dit, ayant anéanti par sa chair. Donc, il parle de sa chair ici. C'est pour cela qu'il est venu dans la chair. Pour le faire, il fallait que le Seigneur Jésus vienne dans la chair. Parce qu'il dit dans Colossiens 2,14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Ben, c'est lui qui a été cloué à la croix. Puis, mais en étant cloué à la croix, il a effacé les ordonnances qui nous condamnaient. Pourquoi? Ben, parce qu'en mourant sur la croix, comme on a vu tantôt, on a été rapproché par son sang. Ben, par son sang, il pouvait nous sauver de cette perdition-là, de notre condition de péché. On était des pécheurs qui avaient besoin d'un sauveur. Ben, lui, en venant dans la chair, puis en mourant sur la croix, il est devenu le sauveur. On parle d'un agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, un agneau qui a été immolé pour nous donner le salut par son sang. Donc c'est vraiment important que le Seigneur, c'est important que le Seigneur vienne. Au verset 14 et 15, il dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Donc, au verset 15, l'inimitié a été annulée, le mur de séparation a été renversé, puis l'inimitié a été détruite. C'est ce qui nous séparait auparavant. C'est ce qui faisait la distinction entre, comme Paul parlait, de vous et de nous, des circoncis, des incirconcis. Ben, c'est ce qui était la barrière, c'est ce qui était le mur de séparation. Puis l'inimitié était annulée, le mur de séparation était renversé. Au verset 16, l'inimitié était détruite. Vous savez, la mort par la croix, ce n'est pas une mort naturelle. Puis ce n'est pas non plus une mort accidentelle. La mort par la croix, ce n'est pas une mort naturelle, puis ce n'est pas une mort accidentelle. C'est une mort judiciaire. Hein? Comme quelqu'un disait, mon grand-père savait le jour et l'heure de sa mort. Il disait, ah oui, comment ça? Et le juge y avait dit. C'est parce que quand le juge avait condamné quelqu'un à mort, ben, il y avait une date d'établie, puis cette personne-là devait mourir. Puis la mort sur la croix, c'était vraiment une mort judiciaire. C'était une punition qui était infligée à un criminel, quelqu'un qui méritait cette mort-là. Puis donc, c'était pas accidentel. Comme le Seigneur Jésus a pu dire, personne ne m'ôte la vie. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Il ne pouvait pas lui ôter la vie. Le Seigneur était sans péché, mais c'est lui-même qui s'est donné volontairement. Puis la mort par la croix, c'est l'accomplissement d'une sentence. Donc l'inimitié n'est pas enlevée ou annulée, mais elle est détruite par la mort du Seigneur Jésus. Ça, c'est vraiment important parce qu'elle a été exécutée dans le sens qu'elle a été mise à mort, elle a été immolée. L'inimitié qui séparait, qui faisait la séparation entre les deux, puis ça, c'était très important. Si Dieu allait amener ces deux peuples-là ensemble pour former un peuple nouveau, il fallait que tout ça soit enlevé du chemin. Il fallait que tout ça soit détruit, toute l'inimitié, toute la séparation, il fallait que ça soit détruite pour qu'il y ait une parfaite harmonie. Parce que si ça n'avait pas été détruit, soit d'un bord ou de l'autre, qu'est-ce qui aurait arrivé? Ben, les Juifs auraient pu dire, ben, nous autres, on est dans l'Église avec vous autres, mais vous autres, vous êtes, attendez un petit peu, vous autres, vous êtes une classe à part. Vous êtes une classe inférieure. Nous autres, on est une classe supérieure. Mais c'est pas, le Seigneur a fait en sorte qu'il n'y ait pas deux classes dans l'Église. Puis même, on voit que l'homme est toujours porté à mettre deux classes. Hein. On voit même que, comme aujourd'hui, souvent dans les Églises, on a le clergé puis la laïcité. Le Seigneur avait pas, c'est pas le but du Seigneur. Il voulait faire de nous toutes des enfants avec des rôles différents. On fait toute partie du corps de Christ, chacun pour sa part, avec des rôles différents, mais on est tous égaux. Et nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Le Seigneur a tout enlevé ces différences-là pour que vraiment il y ait une parfaite unité. Puis on va en parler de cette unité-là quand on va arriver dans le chapitre 4, dans notre façon de marcher. Il faut marcher avec cette pensée-là d'unité. Puis peu importe le rôle, peu importe le ministère que le Seigneur nous a donné d'accomplir dans l'Église, il n'y a pas un qui est plus que l'autre. L'œil ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. Puis la main ne peut pas dire à l'œil, ben moi, je ne suis pas du corps parce que je ne suis pas un œil. On a des fonctions différentes, des ministères différents, mais aux yeux de Dieu, il nous voit tous égaux. Puis quiconque fait une distinction à ce niveau-là, mettant quelqu'un plus élevé que l'autre, ce n'est pas la pensée du Seigneur. On voit comment ici, il est fait en sorte que tous soient égaux. Et faites bien attention, c'est l'Église, elle n'est pas juive. Elle contient des juifs et des gentils. Elle n'est pas païenne, elle n'est pas juive. Elle est la réunion ou l'unité entre les deux. Donc, c'est important de vraiment comprendre le désir de Dieu ici, de faire aucune distinction dans l'Église. Pas parce qu'il n'y a pas des rôles différents, il y a des rôles différents. Chacun de nous, on a des rôles différents. Comme le corps a plusieurs membres, mais avec des membres différents, mais ils sont tous importants. Puis même des fois, ceux qu'on considère comme moins importants, des fois sont plus importants. C'est une unité que le Seigneur a faite. Maintenant, au verset 18, il dit ici, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Fait que là, maintenant, juifs et païens, ils ont le même accès. On n'a pas besoin de passer par les juifs. On passe directement par le Seigneur. On a accès au Père, ici, comme il nous dit ici, auprès du Père dans un même esprit. Puis on parle du baptême du Saint-Esprit. Comme on a dit tantôt, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, il n'y a plus ni homme ni femme. À ce niveau-là, on est un dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on peut l'appeler Père, comme il dit ici, là. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père. Puis, le fait de l'appeler Père, c'est une notion nouvelle. Dans l'Ancien Testament, ils n'appelaient pas Dieu le Père. Ils ne parlaient pas de leur Père. C'était l'Éternel, on voit toujours. Mais dans le Nouveau Testament, maintenant, dans l'Église, maintenant, on peut l'appeler Père. Pourquoi? Parce qu'on est né de nouveau. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, peu importe qu'on soit juif ou grec ou païen, il dit, à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc maintenant, on est né dans cette famille-là, puis maintenant, on a le même privilège de l'appeler Père. Les Juifs, auparavant, ne l'appelaient pas Père. Puis maintenant, ils peuvent, comme ici, ils ont accès auprès du Père dans un même esprit. Puis ça se réfère à Acte 2, là. Quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit, ils sont devenus l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Puis maintenant, on a accès auprès du Père. Eux aussi, ils peuvent l'appeler Père, mais pas par rapport au judaïsme, mais par rapport à cette nouvelle relation-là qu'on a maintenant à travers le Seigneur Jésus-Christ. Puis dans un même esprit, pourquoi? Bien, pour former l'habitation de Dieu qui est l'Église. Maintenant, là, c'est cette entité-là, ce nouveau peuple-là qui devient un, uni, sans distinction, ben c'est là que Dieu va habiter. Comme dans l'Ancien Testament, il leur a fait construire un tabernacle dans le désert. Il leur a fait construire un tabernacle pour. Puis là, la gloire de l'Éternel est venue habiter dans le tabernacle. C'est pour ça que quand on regarde le tabernacle de l'Ancien Testament, il y a des similarités avec le tabernacle du Nouveau Testament. Le tabernacle du Nouveau Testament, maintenant, c'est les croyants. C'est l'Église, pour devenir une habitation de Dieu en esprit. Donc, au verset 19, il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voyez-vous, cette unité-là, le Seigneur, il construit son tabernacle avec des. Puis, comme dans Pierre, il dit, tu sais, il dit, vous donc aussi, comme des pierres vivantes, choisies et précieuses devant Dieu, de s'édifier pour former une habitation. Une chose avec des pierres, une construction en pierre. Vous savez, une construction en briques, là, tu prends n'importe quelle brique, ils ont toutes la même forme, ils ont toutes la même grosseur. Tu n'as même pas un bricoleur, il n'a même pas besoin de regarder, il fait juste prendre une brique et il la met à côté de l'autre. Mais quand on a une construction en pierre, c'est différent. C'est différent parce que les pierres n'ont pas toutes la même forme. Les pierres n'ont pas toutes la même grosseur. Les pierres sont différentes. Puis celui qui construit avec des pierres, bien, il choisit ses pierres. Puis chaque pierre a sa place. Puis nous autres, on est des pierres vivantes. Le Seigneur Jésus a sa place. C'est lui qui est la pierre de coin. Puis il est aussi la pierre du fait. C'est que c'est lui qui commence la construction va se faire d'après lui. On est tous agencés. Puis dans la fondation, il y a les apôtres et les prophètes du Nouveau Testament. Puis ensuite de ça, nous autres, qu'on est ajoutés sur cette fondation-là. Ce n'est pas un bâtiment physique, c'est un bâtiment spirituel, construit avec des pierres vivantes. Puis c'est ça qu'on est. Puis il n'y a pas de distinction entre les pierres, c'est des pierres, il y a des juifs et des gentils, mais on a tous été amenés au même niveau. On avait besoin d'un sauveur. Lui est devenu notre sauveur. Puis par Christ, on a été approchés. On a pu s'approcher du Père. Puis maintenant, on est construit ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Puis ça, c'est pour former l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Puis c'est là qu'il n'est plus dans le temple. Dans l'Ancien Testament, le temple était détruit. Mais avant que le temple soit détruit, on voit dans le livre d'Ézéchiel que le Seigneur, à cause du péché d'Israël, avant que le temple ne soit détruit, bien, le Seigneur est sorti de son temple. Quand Salomon avait construit le temple, la gloire de l'Éternel est venue habiter dans le temple, puis ils ont été obligés de sortir parce que, à cause de la présence du Seigneur, ceux qui officiaient dans le temple, ils ont sorti. Puis même dans le tabernacle, dans l'Ancien Testament aussi, la gloire du Seigneur était venue sur le tabernacle, mais dans Ézéchiel, il est sorti. Il est sorti, puis on le voit, il sort. Puis il sort par la porte de l'Est, puis après ça, il s'en va dans la vallée du Cédron, puis il monte sur la montagne des Oliviers, puis le Seigneur part. Puis c'est pour ça que quand le Seigneur Jésus est venu, bien là, il est revenu dans son temple, parce qu'il n'y avait plus la gloire de l'Éternel dans le temple. Mais ils l'ont mis en dehors. Ils l'ont mis en dehors des murs de Jérusalem, puis ils l'ont crucifié, parce qu'ils ne voulaient plus l'avoir. Mais ici, voyez-vous, dans le chapitre 19, les versets 19 à 22, là, donc on n'est plus des étrangers. Et puis, on n'est pas des gens du dehors, mais on est concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Il n'y a plus de différence entre les deux. Puis, on a été édifiés, ça veut dire qu'on a été construits sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc le Seigneur Jésus est venu mettre le fondement de cette église-là, lui étant la première pierre. Les apôtres ont été placés d'après cette pierre-là, qui est le Seigneur Jésus, pour faire le fondement. Puis c'est pour ça que dans l'église, on a l'enseignement des apôtres, qui sont importants, qui nous ont été préservés par le Saint-Esprit. C'est le Nouveau Testament, qui nous enseigne comment cette construction-là va se faire. Puis elle va se faire, on va le voir plus tard dans le chapitre 4, quand cette unité-là, puis les dons qui ont été donnés dans la construction de cet édifice-là. Quand Dieu a voulu construire le tabernacle, eh bien, il a donné Betsalil, puis Oholiab, qui avait donné, il leur avait donné de l'habilité pour pouvoir faire le travail qui avait à être fait pour construire le tabernacle. Puis la même chose aujourd'hui, il nous a donné, nous, comme des ouvriers, pour construire. Il nous prend chacun et il nous place à notre place, dans le rôle qu'il nous a donné. C'est pour ça qu'on a dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Puis, c'est pour ça qu'il dit, si vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est important. Puis, il faut porter attention aujourd'hui dans l'Église professante, puis les églises locales. Est-ce que le Seigneur Jésus a la première place? Puis c'est triste à dire, mais il n'a pas toujours. Je passais devant un bâtiment d'église une fois, puis c'était marqué sur l'enseigne, là où Jésus est Seigneur. Puis je me suis demandé, est-ce qu'il est vraiment? Est-ce qu'on fait seulement le dire ou est-ce qu'on agit comme lui étant le Seigneur? Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'il est la tête de l'Église? Il est. Dieu lui a donné cette place-là. Mais est-ce qu'on écoute ses instructions? Est-ce que c'est lui qui nous dirige par son esprit dans cette Église-là? Est-ce que c'est lui qui l'a construit, son Église? Parce qu'il avait dit à ses apôtres, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ou est-ce que c'est des organisations d'hommes? Il faut faire attention, vous savez. Des fois, on réalise pas. Si on fait l'œuvre du Saint-Esprit, on n'est pas capable de la faire comme le Saint-Esprit va la faire. Puis c'est si on fait l'œuvre à la place du Saint-Esprit, ça va devenir une charpente humaine. Mais il faut vraiment que ce soit le Saint-Esprit. Si vous avez été édifié, puis en lui, en Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Puis comme le temple et le tabernacle dans l'Ancien Testament, c'était un lieu saint. On ne pouvait pas faire n'importe quoi. Il y avait les gentils qui pouvaient venir en dehors. Il y avait le parvis des gentils qui pouvaient rentrer. Mais après ça, il y avait le lieu saint. C'était seulement les prêtres qui rentraient dans le lieu saint. Puis ensuite de ça, il y avait le lieu très saint. Encore plus profondément à l'intérieur, le lieu très saint, c'était seulement le souverain sacrificateur qui y entrait une fois par année. C'est-à-dire que l'Église du Seigneur Jésus-Christ a des similarités. Est-ce que c'est vraiment comme dans 1 Corinthiens 14, là, il dit, si quelqu'un du peuple entre puis que vous parlez tous en langue, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais il dit, si quelqu'un du peuple entre puis que tous prophétisent, ils vont tomber sur leur face, puis ils vont dire, en vérité, Dieu est au milieu de vous. Ça, est-ce que c'est l'impression qu'on donne quand on est réunis ensemble? Est-ce qu'on donne l'impression que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la tête? Est-ce que ça devient évident? Puis ça se fait dans des choses que le Seigneur nous a demandées, comme le voile, puis les rôles, les différents rôles dans l'Assemblée. Donc, ici, est-ce que les gens du dehors, quand ils voient ça, est-ce qu'ils peuvent dire, oui, ici, c'est la présence du Seigneur? Puis ils vont avoir une crainte respectueuse de la présence du Seigneur. Puis là, ensuite de ça, il dit au verset 22, en lui, vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Puis Paul, il nous dit ça dans 1 Corinthiens, hein, il nous dit tantôt que notre corps physique, notre corps qu'on a, est le temple du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est venu habiter en nous au moment où on a cru. Mais aussi, l'Église est le temple du Saint-Esprit. Fait que est-ce qu'on considère ça que quand on entre ensemble, quand on est réunis ensemble, que la présence du Seigneur ici demande la sainteté, demande le respect. Puis quand c'est nous autres qui démontrons ça, si on démontre un respect dans la présence du Seigneur, bien, ça devient évident pour les gens du dehors. C'est important la façon qu'on se rencontre, la façon qu'on se réunit, la façon qu'on est obéissant à la tête qui nous a été donnée. C'est le Père qui l'a donné, le Seigneur Jésus-Christ, pour être le chef suprême de l'Église, sa tête. Puis le Saint-Esprit, lui, il nous dirige vers le Seigneur Jésus. Puis quand on est réunis ensemble, c'est un qui devrait être très évident parmi nous, c'est le Seigneur Jésus. Puis en même temps, quand on se réunit, est-ce qu'on se réunit pour comme un club social? Non. On se réunit pour venir rencontrer le Seigneur Jésus. On se réunit pour être ensemble autour de lui. On se réunit pour se réjouir de sa présence. Puis, comme il nous dit dans l'Hébreu, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Puis, donc, c'est important. C'est une habitation sainte où le Seigneur vient habiter. Mais c'est pour ça qu'on voit à la fin, dans l'église de Laodicée, dans l'Apocalypse, le Seigneur, il se présente à cette église-là comme étant dehors, frappant à la porte. Et il dit, voici, je me tiens à la porte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de place pour lui dans cette église-là. C'est tous les hommes qui ont pris la place, c'est les hommes qui contrôlent, c'est les hommes, puis ils disent, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Puis le Seigneur dit, parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle, misérable et nu, bien là, lui, il dit, voici, je me tiens à la porte. Il est dehors. Il frappe à la porte. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, là, il s'adresse à l'individu. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, il offre une communion à l'individu. C'est triste, ça devrait être dans l'Église qu'il y a cette communion-là. Mais parce qu'on n'a plus de place pour lui, bien, il est dehors, puis là, il invite les individus à aller vers lui. Le Seigneur faisait comme ça quand il était sur la terre, dans les villes qu'il rejetait, les signes qu'il leur montrait. Après ça, quand il prenait des individus, puis il les faisait sortir de la ville, puis il leur accordait le miracle. Il ne faisait plus dans l'intérieur de la ville. C'est triste à dire aujourd'hui, mais peut-être qu'il y a beaucoup des églises le Seigneur n'a plus sa place dans ces églises-là. Puis il est à l'extérieur. Mais posons-nous la question, nous autres, est-ce qu'il est à l'intérieur? Est-ce qu'on le reconnaît comme étant au milieu de nous? Est-ce que dans notre façon de parler, dans notre façon d'agir, est-ce qu'il y a la révérence pour la présence du Seigneur? Arrêtez-vous un moment, là, puis dites, si vous arriviez dimanche matin, puis le Seigneur serait là en avant du local où est-ce qu'on se réunit, là, quelle serait notre attitude? On ne le voit pas, mais il est là. On espère qu'il est là, parce qu'on est réunis en son nom. Car l'un ou deux ou trois sont assemblés en mon nom. Je suis au milieu d'eux. Fait que je m'arrête là pour ce soir, puis je vous donne la possibilité de reprendre votre micro, puis vous pouvez donner des. Attendez un petit peu, je suis encore participant ici. Puis s'il y a des. OK. Si vous pouvez prendre votre micro. Si vous avez de la difficulté à reprendre votre micro, laissez-moi savoir. Je vais vous donner la possibilité de le faire. Ça fait que je vous donne la possibilité de faire des commentaires ou de poser des questions.
Il y aurait peut-être deux petits commentaires,
OK.
une question. J'ai beaucoup aimé par rapport aux briques que tu as parlé, les pierres. Quand de la petite école à Montmagny, à Saint-François de Montmagny, il y avait un monsieur qui se faisait construire une maison en pierre des champs.
OK.
Et puis ces pierres-là avaient été prises sur notre terrain chez nous.
OK.
Et puis alors, ça m'intéressait. En revenant à l'école, j'arrêtais de voir. Puis je voyais le maçon qui cassait les pierres. Il y a une façon de les casser, hein, pour que ça fitte, là.
Oui.
C'est vraiment habile, ça m'impressionnait. Quand tu as parlé de ça tantôt, les briques et les pierres, alors le maçon cassait la pierre pour qu'elle fitte avec les autres. Donc, quand on est rassemblés, comme tu dis, bien, on est pierres. On est des pierres différentes, mais on est toutes reliées entre nous pour être à la bonne place.
Ouais.
Alors, ça démontre que chacun de nous a été taillé, a été façonné de manière à être placé où Dieu nous désire. Je trouve ça beau, l'image que tu as faite.
Ce qui nous tient ensemble, le mortier, c'est le Saint-Esprit.
Voilà. En tout cas, c'est la première fois que je m'arrête là-dessus. C'est vraiment bon. La deuxième chose, tu as parlé des Juifs, les autres, d'appeler Dieu leur Père. Je ne sais pas aujourd'hui s'ils le font, j'espère, là. Mais dans l'Ancien Testament, ils évitaient de prononcer le nom de l'Éternel. J'ai remarqué ça parce qu'ils ne prononçaient pas le nom de l'Éternel en vain, disons.
Ouais, c'est ça qui avait peur. Ouais.
Ouais, puis j'ai remarqué ça dernièrement. Quand je regardais dans le livre de Matthieu concernant le royaume, Matthieu parle du royaume des cieux, parce qu'il s'adresse aux Juifs. Et puis, Jacques, pas Jacques, mais Marc, lui, il parle du royaume de Dieu, parce qu'il s'adresse aux Grecs. J'ai trouvé ça intéressant.
OK.
L'autre chose que je me... Là, c'est une question. Il y a eu des milliers de Juifs qui se sont convertis à la Pentecôte. Puis encore maintenant, Mais pourquoi qu'on ne les entend pas annoncer l'Évangile comme les évangéliques?
Les Juifs qui se sont convertis, oui, ils sont allés. Et puis même qu'à un moment donné, on voit qu'il y a eu une dispersion à cause de la persécution, parce qu'ils restaient, il y avait tendance à rester à Jérusalem. Puis la persécution les a dispersés. Puis c'est là qu'ils sont allés prêcher l'Évangile, parce que le Seigneur leur avait dit, avant de partir, il leur avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous. Puis faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le Juif n'a pas cette relation-là où il peut appeler Dieu son Père, à moins qu'il se convertisse au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est là qu'on devient enfant de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, tu ne devenais pas enfant de Dieu.
Mais il doit y avoir des juifs chrétiens au Québec.
Ah oui. Ben oui, il y a
Alors
des.
pourquoi qu'on ne les entend pas annoncer l'Évangile?
Mais ça dépend. Est-ce qu'ils sont encore dans la religion juive? S'ils sont encore dans la religion juive, ils ne se sont pas convertis au Christ. Mais ce qu'on appelle les juifs qui se convertissent au Christ, on appelle des juifs messianiques.
Mais s'ils annoncent l'Évangile?
Ben oui, c'est des
Oui.
chrétiens.
Mais on
C'est
ne
des
les entend
chrétiens,
pas.
oui.
On n'entend jamais ça.
Ben, pas en tant que juif, mais en tant que chrétien. Parce qu'il n'y a plus de distinction, là. Ils sont rentrés dans l'Église, il n'y a plus de
Voilà,
distinction.
OK. Ça va, merci, je comprends, là.
OK. Ouais. En tant
Merci
que
beaucoup,
chrétien, il
Jean.
n'annonce pas en tant que juif. Il n'amène pas les gens à judaïser.
OK.
Mais ils vont les amener au Christ qui les a rapprochés.
Moi, je fais la nuance, merci beaucoup.
OK.
Prêtre Lévi, moi, je suis en communication avec des Juifs messianiques à Jérusalem. Puis je pourrais t'envoyer le courriel de nouvelles qu'ils donnent. Puis tu verrais qu'il y a des Juifs messianiques OK. qui annoncent l'Évangile carrément, puis au moyen de vidéos. Puis,
OK. Puis des fois, ils sont bien zélés aussi, comme Paul. Paul est un juif. Puis comment est-ce qu'il a été envoyé vers les nations pour aller prêcher l'Évangile? Puis il dit, si je ne prêche pas l'Évangile, malheur à moi, parce que la nécessité m'en est. C'était une nécessité pour lui d'aller prêcher l'Évangile.
Merci Richard aussi.
Juste
Non.
une petite remarque, à partir du verset 14, là,
Ouais.
si on s'en tient à Éphésiens,
Ouais.
hein, c'est une nouvelle ère, c'est l'ère de la grâce, c'est là où les croyants forment l'Église, puis on ne distingue pas la partie après qui va venir quand les Juifs, les 144 000, vont évangéliser durant la période de la tribulation. Puis là, on a souvent des arguments avec certains qui ne croient pas
Enlever.
on est dans la période de grâce.
Ouais,
Ils ne
OK.
distinguent pas les dispensations,
Ouais.
mais c'est souvent des arguments qui sont ici qui disent ben, on ne fait rien qu'un peuple.
Ouais.
Fait que souvent, ils vont dire qu'on est dans le millénium
Ouais.
parce que
Il n'y a plus ni juif ni grec.
ne distinguent pas la
Ouais,
dispensation.
c'est ça, exactement. Parce que quand l'Église est enlevée, ben là, Dieu revient avec
C'est
Israël.
ça,
Ouais. Puis là,
avec les Juifs.
Israël, ils vont devenir un peuple témoin à ce moment-là, en tant que juif.
Oui.
Comme tu dis, les 144 000, les deux témoins qui vont prêcher l'Évangile.
C'est ça.
Les gestes qui ne font pas partie de l'Église.
Non. Non. L'Église, non, parce que l'Église va être enlevée, mais même il y a des gens qui ne croient plus à l'enlèvement de l'Église avant la tribulation.
Mais le fait qu'on ait aussi l'Église, c'est vraiment un privilège qu'on a parce qu'on est l'épouse de Christ.
Oui.
On est vraiment très proche. T'sais,
Oui.
on suit le Seigneur partout où il va.
Ben
Ça
oui.
va être quelque
Mais
chose de voir ça dans l'éternité.
c'est ça. Mais il y a quelque chose de remarquable, c'est que pour montrer comment est-ce que Dieu a fait en sorte que les Juifs n'avaient pas priorité, parce que vous savez, l'Église, on ne dit pas que l'Église a son siège social à Jérusalem. Comme Richard a dit, il y a une Église évangélique des Juifs à Jérusalem. Mais ce n'est pas l'Église de Jérusalem, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont autant des chrétiens que nous autres, ils font partie de l'Église parce qu'ils ont été rapprochés par le sang de Christ, autant que nous autres.
Oui.
Nous autres, vraiment, l'Église, on a un grand, grand privilège.
Très grand, oui.
Absolument.
On parlait des On parlait des Juifs qui se sont convertis au Seigneur et qui ont été dispersés. La première épître, dans sa première épître, l'apôtre Pierre s'adresse justement à des Juifs convertis qui ont été dispersés à cause de la persécution. Je lis simplement le premier verset de l'épître. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Ponte, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Donc ça, ce sont des Juifs qui se sont convertis au Seigneur et qui se sont ont été dispersés à cause de la persécution.
Puis là, c'est comme ça qu'ils ont été prêchés l'Évangile, parce que le Seigneur leur avait dit, à commencer par Jérusalem, dans la Judée,
Dans la
dans la
Judée.
Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ils ont eu besoin d'une petite poussée pour partir. Puis le Seigneur fait toute chose. Imaginez-vous quand il y a eu la persécution, puis qu'ils ont été dispersés, ils ne devaient pas être heureux de ça. Mais ça a fait en sorte qu'ils ont été prêchés l'Évangile ailleurs.
Moi, quand j'allais à l'église à Sherbrooke, il y en avait un qui était juif, Jean-Pierre Adoul.
OK, oui.
Puis lui, c'est arrivé que je l'entende prêcher un mercredi soir, là, puis...
Ouais.
Ouais.
Ah oui. Tu as raison, je me rappelle de ce nom-là, mais
Ouais.
je ne crois pas que c'est un juif.
Ouais, il était juif, mais...
OK.
Il y en a quand même plusieurs juifs qui, des fois, on ne sait pas nécessairement, mais c'est des juifs qui sont chrétiens. Mais il n'y a pas une place prioritaire dans l'Église. On les appelle des juifs messianiques, c'est des juifs qui ont reconnu leur Messie, mais ils ont la même place que nous autres dans l'Église.
Ça arrive qu'il y a des voyages organisés en Israël.
Ouais.
C'est des Juifs qui sont.
Ben les guides, moi, ouais, souvent les guides, ouais.
Ouais, les Juifs qui dirigent pas mal ça.
Ouais, on dirait quand on est allé, c'était un juif messianique. C'était pas un juif messianique. Il connaissait l'Ancien Testament, il connaissait bien le Nouveau Testament, mais c'était un juif patriotique. Mais il était très gentil. Il nous avait donné des bonnes explications. Il disait pas des niaiseries, il disait des choses sérieuses. Mais en même temps, mais ça me donnait l'occasion de lui témoigner parfois là, dans différents endroits. Là. Comme une fois, j'avais demandé sur le mont des Oliviers, j'ai dit, les Juifs ne croient pas que leur Messie est venu. Ben, il dit, il y en a qui disent qu'il est venu, puis il y en a qui disent qu'il n'est pas venu. Il dit, quand il va venir, on va lui demander s'il était déjà venu. Fait que moi, j'ai dit, tu n'auras pas besoin. Il dit, comment ça? Ben, j'ai dit, quand tu vas voir ses mains percées, puis son côté percé, tu vas savoir qu'il était déjà venu. Mais il était gentil, il était respectueux, on pouvait lui témoigner. Puis, ouais. Mais c'est ça, il faut qu'il se convertisse comme nous autres. Des fois, mais en tant que juifs, maintenant, sont contre le Seigneur Jésus, comme Paul était contre le Seigneur Jésus. Mais quand il s'est converti, ben, il est devenu. Il dit qu'il en a fait plus que toutes les autres. Il dit pas moi, mais c'était le Dieu qui agissait en lui. L'esprit qui agissait en lui, ouais. Puis il est devenu très zélé pour le Seigneur Jésus.
On a des écrits de juifs messianiques comme M. Furtenbaum, M. Libby,
Bon, M. Libby,
qui
oui.
ont une compréhension que nous, on n'a pas
Ouais, ben oui.
parce qu'ils ont. Mais M. Libby suit tous les développements. Entre autres, il a développé deux conférences sur l'intelligence artificielle. Puis ça, c'est vraiment l'outil qui va permettre à Satan de maîtriser le monde au travers l'intelligence artificielle.
Ah oui,
Entre
ça c'est
autres,
sûr. Ouais.
les signes sont là, là
Ah oui.
les événements sont placés pour.
Oui, ouais, vraiment, oui. OK, l'heure est arrivée. C'est qu'on va peut-être terminer avec un mot de prière. Puis s'il y en a qui veulent en parler encore, on continuera. Mais ceux qui doivent partir vont pouvoir partir. Donc, on prie. Seigneur notre Dieu, on te remercie que tu nous as donné une place merveilleuse. On était autrefois. On était des gens du dehors, on était sans Christ, privés de cité en Israël. Mais maintenant, des deux, tu n'en as fait qu'un, Seigneur, parce qu'on avait tous besoin, on était tous des pécheurs qui avaient besoin de salut. Puis tu nous as pourvu le même Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour sauver les Juifs. pour comme il est venu pour sauver les païens, puis enlever toutes les différences, pour les former ensemble. C'est un mystère, Seigneur, que tu nous as révélé à travers ton apôtre ici, l'apôtre Paul, qui nous a révélé ces choses. On te remercie, Seigneur. Puis on te remercie aussi du fait que bientôt, comme on en a parlé, bientôt, on va être réunis autour de toi. Tu vas venir nous prendre pour nous emmener avec toi. Prends soin de chacun, Seigneur. Puis s'il y avait quelqu'un qui n'a pas encore compris le salut que tu as accompli parfaitement pour nous, mais qu'il puisse le recevoir par la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen.